Bonjour, ici Grégoire Margoton, bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Margoton. Club Margoton, c'est un micro tendu vers l'excellence, la parole donnée à des femmes et des hommes qui ont enflammé les stades, repoussé leurs limites. Athlètes, entraîneurs, dirigeants, leur parcours nous a fait vibrer et ils ont un peu changé nos vies. Des témoignages uniques pour comprendre ces histoires de sport extraordinaires. Bienvenue dans Club Margoton. L'invité de la semaine est un grand voyageur. Depuis 20 ans, il a exercé son métier d'entraîneur de foot dans une dizaine de pays différents et sur 4 continents. Chez nous, son image s'est brouillée entre ses mésaventures à Sochaux ou à Lille. Son look de beau gosse idéal à l'éternelle chemise blanche ouverte sur un poitrail bronzé. Difficile de sortir des clichés qui désormais accompagnent sa route. C'est ce que nous allons tenter de faire pendant une heure avec Hervé Renard, qui, vous le verrez, est beaucoup plus que l'image simpliste dans laquelle on a voulu l'enfermer. Attachez vos ceintures, vérifiez la porte opposée, le voyage peut commencer. Bonjour Hervé.
Bonjour Grégoire.
Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Merci de prendre quelques minutes pour ce micro. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on est sûr de faire un grand et un beau voyage pendant toutes ces minutes. On va déjà commencer par le voyage d'aujourd'hui. On est en période de pandémie, on ne peut pas voyager. Je ne peux pas donc me rendre chez toi pour venir t'interviewer. Tu es où là exactement ?
Alors, je suis à Riyad en Arabie Saoudite depuis août 2019, après l'aventure marocaine. J'ai signé en Arabie Saoudite parce que j'avais décidé de changer de continent.
C'est plus l'Afrique, c'est pas tout à fait l'Asie, tu t'es arrêté au milieu ?
Je me suis arrêté au milieu, peut-être en attendant d'aller un petit peu plus loin. Qui sait ? On sait jamais de quoi l'avenir sera fait.
Bon, on va en parler tranquillement. C'est quoi ta vie quotidienne à Riyad ?
On est assez occupé. Quand je dis « nous », c'est le staff et moi. On est 6 avec moi et on parcourt le championnat en long et en large. Donc, on voit beaucoup de matchs. Les journées de championnat, le week-end, le début du week-end, c'est le jeudi soir. Donc, jeudi, vendredi, samedi, des fois, il y a des matchs. En semaine, ils jouent beaucoup parce qu'il y a un peu de retard et donc, il faut que le championnat soit terminé fin mai.
Donc le changement par rapport à tes jobs précédents, c'est que la plupart de tes joueurs, des internationaux que tu peux sélectionner, jouent dans le championnat saoudien. Donc ils ne sont pas très loin, tu peux les avoir sous les yeux.
100% des joueurs de la sélection évoluent en Arabie Saoudite. Il faut se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est l'objectif principal, c'est ce pourquoi je suis venu et qu'on m'a engagé ici. Voilà, donc ça serait fantastique de participer à une deuxième Coupe du Monde en tant que sélectionneur.
C'est quoi la grosse différence aujourd'hui avec les sélections précédentes ? C'est le pays, c'est l'environnement, c'est les joueurs, c'est la culture. Est-ce que il y a des choses qui t'ont surpris depuis ton arrivée ?
Je suis agréablement surpris de par la relation que j'ai avec mon président de fédération. L'administration de la fédération, le staff administratif de cette même fédération, le ministre des Sports, c'est des gens qui sont jeunes, qui ne sont pas en poste depuis très longtemps. Le président de la fédération a été nommé un mois avant que j'arrive, donc j'étais son choix. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, on connaît la règle en football. Hein. Si à un moment donné, on n'est plus dans la course pour se qualifier pour la Coupe du Monde, ben, je prendrai mes bagages et puis je partirai, mais... Il ne faut pas parler de ça, il faut parler toujours de positif en se disant bah, il faut qu'on aille au Qatar, c'est pas très loin, il y a une heure de vol pour nous sur le continent asiatique, qui plus est dans le Middle East. Hein, donc voilà, ça serait magnifique pour nos supporters, en espérant que tout soit réouvert d'ici là, qu'on puisse aller tous ensemble à la Coupe du Monde 2022.
Et ces supporters, c'est exactement comme en France, il n'y a personne dans les stades, tu es dans les mêmes situations pour aller voir des matchs avec des tribunes vides.
Pareil, le huis clos est absolu, donc c'est vrai que c'est un peu plus triste, parce que l'Arabie Saoudite est un grand pays de football, avec des stades souvent pleins, notamment pour les principales équipes, qui sont Al Nasser, Al Hilal, Al Riyad, et puis Al Ahly. Et puis Al Ittihad à Jeddah, c'est des derbies qui peuvent des fois se dérouler devant plus de 60 000 personnes.
Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, c'est quoi tes principales difficultés par rapport à ton métier ? C'est justement de choisir des joueurs que tu ne connaissais pas du tout avant. C'est de te faire en un an et demi une culture globale de ce qu'est le niveau individuel et collectif du foot saoudien. Ça a pris du temps.
Bah, ça a pris du temps, oui et non. On s'est imprégné très rapidement dès notre arrivée en voyant, je pense, le premier mois, août 2019, on avait vu 32 matchs à nous tous. Donc on s'est dispatché, il a fallu apprendre, ce qui a donné un premier stage très très moyen. Et puis après, ça s'est amélioré, on a réussi à découvrir de plus en plus les joueurs. Et puis aujourd'hui, à former un groupe, malheureusement on ne s'est pas assez regroupé en 2020, mais à former un bon groupe avec des jeunes, des joueurs plus expérimentés, et je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'on a une très bonne équipe, et j'espère qu'on pourra le matérialiser sur le terrain.
Ils apprennent où à jouer au foot, les Saoudiens, quand ils sont gamins ? Dans la rue, ou il y a tout de suite des structures, des clubs et des organisations qui les entourent ?
Il y a quelques organisations qui les entourent, mais de ce côté-là, ce n'est pas ce qui est fait en Europe. C'est là où on peut se demander comment il y a autant de joueurs de talent. Avec un petit peu plus de structure pour les jeunes, de championnat pour les jeunes, ça serait, je pense, un énorme pays comme il l'a été par le passé de football. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Un nouveau directeur technique qui est arrivé il y a quelques mois, qui est un ancien joueur roumain, Lupescu, qui était à la FIFA. Donc j'espère qu'il va faire un travail très approfondi. Ils en ont la volonté. Maintenant, il y a un peu de retard au niveau des jeunes de ce côté-là, même si après, ça se comble, parce qu'arrivé vers 15-16 ans, les clubs professionnels ont des académies, tout ça. Mais à l'école, par exemple, la scolarité mélangée au football, ça doit être amélioré.
Tu comprends qu'en France, on puisse se dire « Mais qu'est-ce qu'allait faire Hervé Renard en Arabie Saoudite ?» Après t'avoir vu, effectivement, dans plein de pays africains, anglophones, francophones, à Sochaux, à Lille, tu comprends que ça puisse étonner certains en France, comme par exemple Laurent Blanc qui va aller entraîner au Qatar, et qu'on se dise bah, « Ils sont allés parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre, ou pour les sous. » Tu l'imagines, ça ?
Ouais, je vais répondre. Je pense que... Je pense que c'est une erreur de penser ça. Alors moi, mon choix, il était fait en quittant le Maroc, c'est-à-dire que j'avais signé nulle part quand j'ai quitté le Maroc, et au 30 juin 2019, et je me suis dit, je vais quitter l'Afrique. Alors pourquoi quitter l'Afrique ? Parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, je pense en toute humilité que je peux trouver du travail dans beaucoup d'endroits en Afrique. Donc au moins j'ai cette chance aujourd'hui sur ce continent de pouvoir le faire. Mais j'avais décidé au contraire de mettre un peu de difficulté dans mon choix. Et il faut être réaliste aussi, j'ai pas de sélections qui sont venues du continent européen ou du continent américain. Si on me proposait un jour ou l'autre une sélection européenne, même de seconde zone, sans parler de l'Espagne, la France, l'Allemagne, mais j'y réfléchirais doublement, mais c'est pas venu. Donc, que faire ? Si je décide de rester sélectionneur, eh ben, je vais sur le continent asiatique où j'ai eu des offres. Après la Coupe du Monde, j'ai eu une offre de la Corée du Sud, que j'aurais bien aimé honorer, mais j'étais pas libre. Voilà, il y a des sélections dont l'Arabie Saoudite fait partie en Asie, qui sont le Japon, la Corée du Sud, l'Iran, l'Australie, le Qatar, qui est champion d'Asie en titre, et l'Arabie Saoudite en fait partie, des meilleures sélections asiatiques, donc pourquoi je refuserais de venir ? Au niveau financier, ça soit intéressant, je vais mentir à personne parce que j'ai pas l'habitude d'employer la langue de bois, bien sûr, mais c'était pas ma priorité. Je serais pas allé dans un endroit ou dans un pays où j'avais beaucoup plus d'argent, où la sélection n'aurait pas été compétitive. Et puis, pour ceux qui discutent de ce côté-là, j'aurais également pu aller en Chine, dans un club, parce que j'avais des offres et où j'aurais certainement doublé mon salaire par rapport à mon salaire de sélectionneur ici. Je pense que c'est facile de l'extérieur de faire des commentaires, mais il faut en connaître tous les tenants et les aboutissants avant de vraiment être catégorique sur ces commentaires.
Je te propose de recommencer le voyage au début assez rapidement, mais bon, pour avoir regardé pas mal de choses sur toi, des vidéos, des portraits, longues interviews que tu as pu donner aux différents médias français depuis une dizaine d'années, tu dis on ne sait pas grand-chose de ton enfance à Aix-les-Bains. On te retrouve tout de suite à la ESCAN, en centre de formation, mais il n'y a pas grand-chose sur ton enfance, sur ce qui te fait venir au foot, sur ta pratique du foot, sur les parties de foot avec les copains dans la jeunesse. Ça ressemblait à quoi ?
C'était merveilleux. Je suis né à Aix-les-Bains, en Savoie. J'avais un père qui était dirigeant d'un club cycliste, dont je suis toujours autant passionné. Et il m'a emmené au cyclisme. À l'école de cyclisme, j'ai commencé par ça. Ensuite, son frère était éducateur dans la lutte. J'ai continué par la lutte gréco-romaine pendant un an. Mmh. Et puis un jour, j'ai un copain à 8 ans qui m'a dit « Viens au foot, tout ça ». Il m'a emmené. Et puis voilà, j'ai pu quitter. Et c'est l'époque 77. Donc, la grande époque de l'AS Saint-Étienne. En plus, j'habitais dans la région Rhône-Alpes. Donc, j'ai été j'ai pas peur de le dire, j'avais le cœur vert, je pense.
Comme tout le monde.
Et j'avais un ami d'enfance chez qui on jouait beaucoup, qui est un petit peu plus connu que tous les autres, qui s'appelle Édouard Jay, qui travaille à RMC Sport. Et voilà, on jouait ensemble dans cette équipe de minimes et cadets à Aix-les-Bains. Avant que je parte, puisque j'ai été sélectionné en Savoie, en Rhône-Alpes. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de France cadet quand je suis arrivé à Cannes avec Didier Deschamps et Marcel Desailly, entre autres. En 83, ou août 83, j'ai découvert ce qu'était le milieu professionnel. Après, voilà, on peut y aller après, mais j'en aurai des choses à dire.
15 ans, c'est la première fois que tu quittes tes parents,
oui.
C'est la première fois que tu quittes ta région natale. Tu te souviens de ce premier voyage, qui sera le premier d'une très longue série, mais tu te souviens de ce premier...
Ah, je m'en souviens.
Cette première coupure ou ce déracinement, tu l'avais vécu
comment ? Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était en mai 1983. C'était pendant le Festival de Cannes. Ouais. Donc, je suis arrivé à Cannes de ma Savoie natale et pendant le festival du film. Bon, j'ai cru que j'étais certainement sur une autre planète. Pour ceux qui connaissent un petit peu, bon, même si c'est un petit peu, c'est un autre monde, on va dire, mais j'y suis arrivé en plein dedans et je suis venu avec un joueur qui jouait avec moi à Aix-les-Bains qui s'appelait Xavier Gras. Mmh. C'est lui qui avait été demandé par la ESCAN. Et on a fait un match d'essai ce jour-là. Mon entraîneur, Daniel Guillot et Bernard Chevalier m'ont amené avec lui à Cannes. Et j'ai été pris et pas lui. Donc ça a été un crève-cœur parce qu'il avait des qualités énormes. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui il n'a pas été pris. Et moi j'ai continué ma route en rencontrant des gens extraordinaires, notamment des entraîneurs. Et voilà, c'était mon destin. C'est comme ça.
Et est-ce que ton destin, tu penses à 15, 16, 17 ans, est d'être joueur de Ligue 1 ? Est-ce que tu l'imagines ? Bien sûr, est-ce que tu en rêves ? Réalises-tu que... Ouais, comment ça se passe ?
À partir du moment où j'ai cette passion depuis mes 8 ans, jusqu'à 15 ans, je fais partie des meilleurs dans ma région. J'arrive à Cannes, je suis sélectionné dans les sélections nationales, voilà, donc et puis j'avais cette envie, je voyais que par le football, de devenir un joueur professionnel de première division. Un joueur, on va dire, pas spécialement doué techniquement, mais avec beaucoup de capacité de travail, d'écoute vis-à-vis de mes entraîneurs, un leader. Voilà, si je veux me résumer, c'est ça. Mais il me manquait des qualités techniques et de la vitesse pour réussir au plus haut niveau.
C'est ça qui fait que tu n'auras joué finalement quoi que deux matchs hein, avec les pros de la ESCAN en coupe.
Oui, et puis je suis tombé à une période où la ESCAN avait une très très belle équipe. J'ai côtoyé des internationaux de l'époque, hein, notamment Luis Fernandez, Yannick Stopira, Bruno Bellone. J'ai vécu des choses fantastiques. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont marqué. je pourrais en citer deux. Jean Fernandez et Guy Lacombe. Voilà, c'est des gens qui, de par ma passion et en les rencontrant, ma passion s'est amplifiée. Et j'ai eu une énorme envie, bien sûr, de devenir un footballeur professionnel, que je suis devenu à moitié. J'ai signé un contrat professionnel. Ensuite, j'ai été prêté à Valoris, qui jouait en national. Et je suis resté à Valoris après. Mais c'était sans doute mon niveau. Voilà, national, peut-être Ligue 2, mais il fallait partir dans le Nord. J'avais peut-être pas trop envie, mais pas plus haut. Donc voilà.
Tu te souviens de ce premier petit deuil que tu as dû faire dans ta vie? Tu te souviens comment ça s'est passé de se dire « Ok, bon, moi, j'irai pas plus haut ». Tu t'es tombé dessus d'un coup, un jour, ou ça a mis plusieurs années à infuser?
Non, je m'en suis aperçu en côtoyant un groupe professionnel pendant 3 ans.
Oui.
Et je me suis aperçu de la valeur des joueurs, de la qualité des joueurs dans ce groupe. Comme je l'ai dit, ceux que j'ai cités, il y avait aussi Félix Lacuesta. Voilà, c'était des joueurs vraiment d'un niveau. C'était des très très bons joueurs de Ligue 1. Hein. Donc j'avais pas leur niveau. Et parmi tous ceux-là, qui étaient beaucoup plus jeunes, parce qu'il a 4 ans de moins que moi, il y avait Yazid Dine Zidane à l'AS Cannes. À un moment donné, c'est ce qui manque peut-être, je vais avoir un petit peu un regard un peu sévère, c'est à la jeune génération, c'est de s'auto-critiquer. Quoi. Ambitieux, c'est bien, mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas non plus. Et les entourages, les relations familiales font que parfois les joueurs se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils n'ont pas les qualités qu'on leur dit, et ça peut être violent, tandis que moi, ça n'a pas été violent, puisque c'est venu naturellement et en m'en apercevant moi-même.
Tu as une petite vingtaine d'années, tu restes sous ton soleil, pas natal, mais d'adoption, là, dans le Var, à Valoris, à Draguignan, ouais. Donc dans des équipes de niveau moyen, on n'est plus en Ligue 1 ni même en Ligue 2. Comment tu fais dans ces moments-là? Tu penses déjà un peu à entraîner, tu te dis tiens, j'en profite plus longtemps possible parce que c'est mon bonheur. Tu es obligé à côté d'avoir un autre métier pour vivre?
Je commence par toujours croire que je suis footballeur professionnel. D'ailleurs, on l'était puisqu'on ne faisait que ça. On s'entraînait comme les équipes de national aujourd'hui. Hein. C'était déjà le cas. La Valoris, qui avait une grande équipe d'ailleurs, était sponsorisée par la CRL. C'était Jacques Médecin, maire de Nice, qui avec la CRL, qui était sponsor de Valoris. Voilà, il y avait de l'argent. On était capable de vivre comme des professionnels. Ça a duré 7 ans. Et puis après, le club a eu un petit peu moins d'argent. Et puis, de par mes rencontres, j'ai rencontré une personne qui était un ancien dirigeant du FC Rouen, qui s'appelle Pierre Romero, et puis un jour il m'a alerté en me disant « ça serait bien que tu fasses autre chose quand même », et j'ai monté une structure de nettoyage. Ouais. Voilà, alors j'en avais pas du tout envie, hein. C'était loin de mes idées. Parallèlement, je continuais mes diplômes parce que c'est sûr que j'avais envie de devenir entraîneur, mais vraiment une grosse envie. Surtout au contact de Jean Fernandez et Guy Lacombe, cette passion elle s'est décuplée. Et j'ai passé mes diplômes, j'avançais bien, mais j'étais toujours joueur. Et puis un jour, j'ai été blessé en national, je suis resté un an sans jouer. En 1994, j'ai monté cette entreprise grâce à Pierre Romero. Un grand merci.
Raconte ce que tu y faisais.
Ouais, je faisais du nettoyage, ouais. Bah, j'avais une structure indépendante, hein. J'étais en nom propre. Je ne sais même plus si juridiquement ça existe encore, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, mais moi j'étais en nom propre. Ce qui veut dire, pour résumer, c'est-à-dire que quand on perd son travail en nom propre, on n'a pas le droit au chômage, on n'a le droit à rien, quoi. J'ai été bien aidé au départ, j'ai commencé à grandir avec ma femme qui ne travaillait pas avec moi au départ. Elle est venue dans la structure, on a fini janvier 2002 avec 4 employés, et puis ça marchait bien, à Cannes, les locations saisonnières, les gens qui viennent en vacances, le festival, tous les festivals qu'il puisse y avoir à Cannes, le festival nautique, les congrès, tout ça, donc ça marchait bien, mais pour moi, c'était simplement pour mieux vivre. Il fallait trimer, parce que comme tous les artisans aujourd'hui, eh ben, il faut aller chercher. Mais quelque part, ça me correspond. J'ai besoin d'aller chercher ça. Et je me levais de très bonne heure, souvent vers 3h, 3h30 du matin, pour finir ma journée vers midi. Et puis le soir, soit je jouais, soit j'allais m'entraîner vers 17h, soit j'allais entraîner après, à Draguignan, en National 3 à l'époque.
Raconte-nous comment Pierre Romero va changer ton destin une deuxième fois. Mais alors là, cette fois-ci, plus fortement encore.
Oui, bah c'est l'été, je crois que c'est l'été 2001. J'avais rencontré lors d'un repas à Antibes Claude Leroy. C'était l'anniversaire de ce même Pierre Romero. Donc il y avait Claude, on a échangé un petit peu, mais pas énormément comme ça, parce que moi j'étais bien sûr passionné de foot. Moi, avec beaucoup de respect par rapport à une personne comme Claude. Et puis voilà, 6 mois après... Claude signe à Shanghai. Là, on est en décembre 2001. Donc, Pierre Romero, cet ami, appelle Claude pour lui dire « Tu cherches un adjoint. J'ai entendu parler que tu cherches un adjoint. Donc, ça serait bien que tu penses à Hervé. » Et il lui dit « Oui. Bon, » pour ceux qui connaissent Claude Leroy, il dit « Oui. » Mais il avait une liste de noms assez importante. On va pas en citer parce qu'il m'en a dit certains, mais qui voulaient partir avec lui en Chine. Et je l'ai rencontré en Avignon. J'ai passé 2 heures avec lui pour une audition. Hein, et puis, il m'a dit « De toute façon, que ce soit positif ou négatif, je te rappelle d'ici 48 heures. » Et il m'a dit « à bientôt ». Et puis il m'a rappelé, puisque c'est un homme de parole, il m'a rappelé en temps et en heure. Et puis il m'a dit « prépare tes valises, tu vas partir avec moi ». Voilà comment mon destin a changé. En janvier 2002, je suis parti en tant qu'adjoint à Shanghai. Moi j'ai tellement de... Bon, Claude, pour moi c'est... Je pense que tu as lu de nombreuses choses, j'en parle sans arrêt, peut-être que ça fatigue les gens, mais je ne peux pas faire autrement.
Non, je te comprends, moi
désolé.
J'ai une toute petite histoire avec Claude, moi, elle a commencé même avant toi. J'ai commenté une Coupe d'Afrique avec lui en 96 en Afrique du Sud, et puis j'ai commenté beaucoup de matchs ensuite, d'autres Coupes d'Afrique avec lui, donc des discussions jusqu'à la fin de la nuit. Non, je comprends tout à fait, moi il m'a énormément marqué Claude, et pourtant je ne suis pas adjoint, je n'ai pas travaillé directement avec lui, mais il m'a beaucoup, beaucoup appris. Donc je comprends tout à fait ce que tu peux dire. Raconte-nous l'arrivée à Shanghai, parce que là c'est plus Draguignan, c'est plus Valoris, c'est plus Excellin, c'est Shanghai.
C'est le milieu professionnel dans une ville à l'époque de 17 millions d'habitants. Je crois que j'ai regardé dernièrement, aujourd'hui il y en a 22 millions je crois, tout surdimensionné, mais on est là pour le foot, pour le football, et ça se passe bien, je suis content. On part en stage sur une île au sud de la Chine qui s'appelle l'île de Reinan. Et là, on passe 3 semaines en stage et je partage tous mes repas avec Claude le soir. Et là, comme tu l'as peut-être vécu toi-même.
J'imagine bien.
J'ai en face de moi quelqu'un de passionné, qui est capable de parler de tous les sujets, qui parfois a son caractère de breton, bien sûr, mais qui est tellement passionnant, qui est tellement intelligent, que je suis sous le charme. Moi qui suis quelqu'un de respectueux et de très loyal, c'est comme un père, Claude.
Et tu apprends quoi avec lui alors ? Parce que j'imagine que des choses qui te servent encore aujourd'hui, qui te serviront toute ta vie dans ton boulot de sélectionneur et de coach, il y a peut-être 2-3 choses là, dès ces premiers mois en Chine que tu gardes de Claude.
Avec le recul, parce que je ne le sais pas à l'époque, on est en 2002, mais j'arrive en Afrique en août 2007, mais il ne me parle que de l'Afrique pratiquement.
Et ça c'est sûr.
Et moi je ne connais pas l'Afrique, je ne suis jamais allé sur le continent africain, jamais.
Bien sûr.
Jamais, et je sais même pas parfois de quoi il me parle, parce que quand on n'a pas vécu les choses, on peut pas les imaginer telles que la personne veut nous les décrire. Il me cite les joueurs, il me cite les anecdotes au Cameroun, notamment lorsqu'il arrive de Grenoble, voilà, c'est tout ça, et je m'en suis nourri. Et comme tu le dis si bien, après, des petits détails me sont revenus en mémoire dans des moments clés, dans des moments importants, et je m'en suis servi. Après, j'y ai apporté ma décision finale, mais je ne peux pas dire que j'ai jamais pensé à lui dans des décisions importantes. Au contraire, je pense que j'ai toujours pensé à lui, de ce qu'il a pu me dire, de ce qu'il a pu me conseiller de faire.
Il y a cette première expérience chinoise. Tu vas retrouver Claude quelques années, mais ça va être rapide maintenant parce que ça s'enchaîne dans ta carrière à Cambridge, en 4e division en Angleterre.
Ouais.
Voilà, t'es toujours pas en Afrique, ça se rapproche. T'as fait une petite pige au Vietnam en rentrant de Chine. C'est quoi cette histoire du Vietnam où tu passes juste avant d'aller à Cambridge comme ça?
Bah, je vais au Vietnam parce que j'ai besoin de travailler.
Ouais.
Et puis, je suis un entraîneur professionnel. J'ai plus d'entreprise puisque j'ai vendu l'entreprise. Et en assumant totalement le fait de la vendre, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un regret, au contraire, je dis à ma femme, il faut vendre. Oui, mais si, elle me dit, mais s'il arrive quelque chose, tout, j'ai dit non, il ne va rien arriver, je vais réussir. Donc, c'est facile de le dire après. C'est facile, ce n'est pas du tout faire preuve de prétention, c'est simplement que j'ai cette conviction en moi que je vais, dans ce métier, je vais réussir, chose que je n'ai pas fait en tant que joueur. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai une motivation qui est énorme, parce que je n'ai pas réussi en tant que joueur ce que je voulais, à réaliser mes rêves. Et voilà, donc j'arrive à Cambridge et Claude, il a un ami à Cambridge, l'équipe en difficulté, et voilà comment j'arrive là-bas. Et au Vietnam, j'y vais parce que je reste 3-4 mois sans travail et on m'appelle au Vietnam, sauf que je suis tombé dans un club où... Déjà, qui n'était pas à Hanoï, ma famille était à Hanoï et il y avait 2 heures de route entre les deux, mais je ne pouvais pas rentrer tous les soirs, mais ça, on ne me l'avait pas dit au départ. Donc, c'était difficile à vivre. Et puis, je suis tombé en préparation. Je n'ai jamais fait un match de championnat sur quelqu'un qui était un directeur sportif qui faisait pas mal de corruption. Et je n'arrivais jamais à faire venir les joueurs que je voulais voir à l'essai. C'était toujours les passeports, on ne pouvait pas obtenir le visa, tout ça. Enfin, pour bien comprendre qu'il faisait son petit business. Et je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, je vais partir. Au revoir, bonne chance. Et puis voilà. Donc, je suis parti comme ça, comme j'étais venu. Mais j'ai découvert le Vietnam.
Et cette conviction de réussir comme entraîneur, elle commence là, quand tu pars en voyage en Chine, au Vietnam, à Cambridge avec Claude, ou déjà tu l'avais quand tu n'étais pas encore parti à Draguignan, dans tes premières années de coach?
Non, je l'avais en moi parce que j'étais un leader. Leader, ça ne veut pas dire être le meilleur. Leader, ça veut dire amener les autres dans son sillage. Être capable de dire des choses pour que les autres puissent être convaincus. C'est ça un leader. Alors il y a des leaders qui sont des leaders techniques, des leaders sportifs et des leaders en dehors. Ça c'est long. Mais moi j'étais pas un leader technique, mais j'étais un leader, un meneur d'hommes. Voilà. Donc j'avais confiance en cette qualité parce que je l'ai toujours eu, mais même quand j'ai été dans les équipes de jeunes, à 10 ans, 12 ans, j'ai toujours été capitaine des équipes. Comme ça, je pense que c'est en soi, c'est un caractère, ça vient certainement de ma maman, qui est d'origine polonaise, qui a un caractère assez dur. Parfois un peu trop rigide. Moi, je le suis aussi. Parfois, je me suis assoupli un peu, mais elle ne changera pas. Elle a bientôt 80 ans. Donc, mais par contre, juste un petit mot sur ma maman. Elle m'a donné une éducation exceptionnelle, avec des valeurs, avec du respect. Et il ne faut pas que je dévie de ce chemin, sinon ça ne se passait pas très bien pour moi.
Et Claude te rappelle?
Il me rappelle, il est déjà au Ghana depuis un an. Il est arrivé en juin 2006, je crois, juste après la Coupe du Monde. On se rappelle que la Coupe du Monde, pour faire un petit récapitulatif, la Coupe du Monde, le Ghana 2006 avait été très bon. Et il prend la succession du sélectionneur pour préparer la Coupe d'Afrique 2008, dont le Ghana est pays organisateur. Donc moi j'arrive, on retrace les dates, c'est important, août 2007, c'est-à-dire 5 mois avant la Coupe d'Afrique en tant qu'adjoint de Claude. Et là, j'arrive, là, c'est un autre niveau. Là, c'est Michael Essien, c'est Souley Mountari, c'est George Mensah, André Ayou, oulala, là, c'est pas la Chine, c'est pas ce que j'ai vécu jusqu'à présent, dans la qualité technique des joueurs que j'ai eu à entraîner, c'est autre chose.
Et quel est ton rôle d'adjoint ? Comment ça se passe avec Claude ? Claude parle beaucoup, a besoin de communiquer beaucoup. J'imagine qu'il parle régulièrement à ses joueurs, collectivement, individuellement. Quelle place était la tienne, toi, dans ce manège ?
Moi, j'ai été chargé de la veille où on se voyait. Il me disait, tu prépares, qu'est-ce que tu penses pour demain ? Parce qu'il échange toujours. Je dis, je vois bien ça dans le cœur de la séance pour se préparer tout ça. Donc, je montais la séance. J'avais une parfaite autonomie. J'ai aussi fait la préparation physique de l'équipe des Black Stars pour la compétition. Mais donc voilà. Et puis après, la partie tactique, c'était Claude qui prenait en main souvent la dernière partie de l'entraînement. Donc, on était bien huilés. J'avais ma partie et puis lui, il prenait le relais. Quand il voulait intervenir, bien sûr, il intervenait. Et voilà, ça se passait comme un vieux couple, quoi.
C'est vrai que ça fait déjà 5 ans que vous travaillez de loin en loin, en tout cas ensemble. Ouais. Ton premier choc de l'Afrique, positif ou négatif, hein, mais le premier souvenir que tu as là en arrivant au Ghana de quelque chose que tu n'avais jamais vu et même Claude ne t'en avait pas parlé, il ne pouvait pas te prévenir. Tu te souviens de quelque chose ?
On part en décembre 2007 se préparer à Jebel Ali, à côté de Dubaï, pour, on va dire, enlever la pression un petit peu. Et puis on revient juste avant la compétition, certainement 4 jours avant, du début de la Coupe d'Afrique, donc match d'ouverture. Et là, on arrive sur le tarmac de Accra, et là, je pense qu'il y a 3-4 000 supporters, quoi. À Cherbourg, ils n'étaient pas autant, hein. Et j'ai une anecdote qui m'a toujours fait sourire, parce qu'elle est restée dans ma mémoire, c'est qu'à ce moment-là, les joueurs, ils ont tous sorti leur sac Biton, ils ont mis leurs lunettes de soleil. Et c'était un spectacle. C'était un spectacle. Mais ça m'est resté en tête parce que je les ai tous vus mettre leurs lunettes de soleil. Là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et puis après, j'ai compris. Hein, c'était des stars. Hein, c'était les stars du pays qui rentraient juste avant la compétition. Et il y avait une ambiance sur le tarmac quand on est arrivé. Et puis le premier match, quand on va pour le match d'ouverture, le bus pouvait pas avancer, quoi. Ah non, c'était... Ouais. C'était des couleurs, des chants, des visages peints, des drapeaux de partout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Et là, mais à aucun moment, tu es déstabilisé, tu te dis, je suis heureux d'être là. Tout te plaît ?
Oui, tout me plaît. Après, il y a des particularités en Afrique, comme dans tous les pays, comme dans tous les continents. Mais ce qu'on peut... porté très haut en Afrique, c'est la joie de vivre, les couleurs, la musique, le résumé, c'est cette joie de vivre. On n'est pas sur Terre pour s'emmerder la vie, voilà. Mais ça, c'était pas dans mon caractère, ça. Et ça, je l'acquéris en arrivant en Afrique. Et je m'y adapte. Ce qui est paradoxal, moi, je suis quelqu'un de plutôt rigide, qu'on va comparer à une mentalité un peu plus de l'Est. Et je l'ai quand je commence ma carrière d'entraîneur, mais je m'aperçois qu'à un moment donné, et Claude me le dit, faut lever un peu le frein à main, hein, sinon les joueurs, ils avancent plus après. Voilà, il faut leur laisser un peu de... Et en Afrique, celui qui arrive et qui dit « on met pas de musique », je pense qu'il a tout perdu. Je veux dire, quelques jours, il peut déjà prendre son billet d'avance. Hein. Maintenant, ça peut fonctionner avec certains, mais je pense que c'est pas la meilleure décision à prendre. Mais ça, c'est un avis personnel, hein. Ça peut marcher quand même.
Et tu découvres très vite les spécificités, peut-être pas de tous les pays africains, mais du Ghana peut-être, de l'interventionnisme du président de la République, de la pression politique, de la pression de la fédération, parce qu'en plus, la Coupe d'Afrique était sur le sol ghanéen à ce moment-là. Ça aussi, tu le découvres très vite, au-delà du plaisir de se retrouver dans le groupe de joueurs.
Oui, mais moi, je supporte pas ça. Un adjoint, il est en dehors de ça. C'est l'entraîneur principal qui est au contact de toutes ces personnes qui peuvent, mais je pense qu'ils ont tous confiance en Claude, parce que d'abord, s'ils l'ont pris, c'est parce que ils connaissent son background, ils connaissent son expérience et il vient pour gagner la Coupe d'Afrique.
Et lui, il gère tout ça, parce que moi, tu parles de ces discussions que tu as eues avec Claude jusqu'à pas d'heure, et tu as dû en avoir quelques-unes, mais moi, il me racontait tellement d'histoires de compétitions qui commencent, les joueurs savent même pas s'ils vont être payés, s'il y a une prime éventuelle, rien n'a été discuté, les équipements sont pas là, etc., etc. Tu as eu à gérer ça, ce que tu n'avais pas vécu avant.
Moi, pas trop au Ghana.
Oui.
Pas trop au Ghana, j'ai eu à le gérer après, en Zambie. Mais au Ghana, pas trop. Au Ghana, je pense que là, il y avait tout. Moi, j'arrive que 5 mois avant, hein. Donc là, il y a tout qui est mis en place, tout est fait pour que. Sauf que, oui, j'ai des anecdotes. Par exemple, l'anecdote, c'est pour ceux qui savent, le tournoi de Toulon, je rencontre le président de la Fédération ghanéenne en mai 2007. Et on me dit certainement début juin c'est ok, mais pendant 2 mois j'ai pas signe de vie quoi. C'est-à-dire que juin juillet passe et j'ai pas de nouvelles de mon contrat quoi. Donc moi je me dis mais si jamais me prennent pas je fais quoi, parce que j'ai besoin du football pour vivre quand même. Et là oui c'est le premier truc, mais et Claude me dit ouais mais t'inquiète pas bon, il a l'expérience. Et la première anecdote, c'est que je signe mon contrat, je crois que je le signe au mois de novembre, pas avant. Et je finis dans le bureau du président et je lui demande, mais président, j'ai toujours, avec du respect, mais un peu en colère quand même, je lui dis, j'ai toujours pas signé mon contrat, je peux le signer quand même. Mais j'ai peur, moi, j'ai peur de me retrouver sans rien. C'est des anecdotes de l'Afrique. Il y a rien de méchant, mais c'est la réalité.
Tu dis que tu découvres d'autres choses, effectivement, en Zambie. En fait, ça va arriver très vite. Hein. Juste après cette Coupe d'Afrique, tu prends la Zambie, mais cette fois-ci comme première expérience de numéro 1. Est-ce que c'est Claude encore qui te met sur cette affaire-là, sur la Zambie dès 2008?
Une personne qui était le président de la fédération zambienne, Kalusha Bwaila, qui était détaché avec nous dans le même hôtel que nous à Accra et détaché avec notre équipe en tant que, comment on a dit, commissaire d'organisation. Donc il était chargé de. Il supervisait nos entraînements, mais je ne le savais pas. Il me l'a dit après et il m'a vu travailler. Et puis un jour, il a rencontré Claude dans le séminaire qui se passe après chaque grande compétition. Et il a dit, il lui a parlé de moi et Claude lui a dit, parce que c'est Claude qui me l'a dit, il me l'a dit, ben, prends-le les yeux fermés. Voilà comment je suis parti en Zambie. Et alors que je pensais que j'étais parmi une liste de quelques-uns, il suffit juste que je dise oui ou que je dise non.
Voilà, oui, puis en Zambie, surpris. Quand Kalusha Bwaila est d'accord, c'est bon, ça, en général, ça passe.
Oui, voilà, donc quand je l'ai eu au téléphone, pour moi, je fais partie des 2-3 options. Et puis non, il me dit, c'est vous me dites, vous me donnez une réponse. Voilà, et j'étais surpris. Et j'ai dit à Claude, je m'en rappelle, et j'ai pas peur de le dire, j'ai dit à Claude, mais la Zambie, c'est une bonne équipe. Et il m'a dit, ça a toujours été une bonne équipe en Afrique. Et je pense que pour toi, c'est une fantastique opportunité. Voilà ce qu'il m'a dit. Je pense que ça suffisait. Et j'ai dit banco. Dans un pays anglophone, voilà, j'ai jamais choisi la facilité. C'est comme ça. J'ai pas toujours choisi non plus. Hein. J'ai pris l'habitude de dire ça. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent choisir ce qu'ils ont réellement envie de faire. Parfois, c'est une question de timing. Alors, on n'accepte pas, mais ce n'est pas toujours facile.
Et ta première soirée à l'hôtel en Zambie en 2008, quand tu arrives, tu te souviens?
C'est simple, je me souviens, c'est une autre anecdote. En fait, comme je suis arrivé en cours de chemin au Ghana, Claude a déjà un adjoint, puisqu'on se rappelle, il est au Ghana depuis un an déjà. Donc il a un adjoint. Et moi, quand j'arrive, on me donne le titre de préparateur physique.
D'accord.
Et quand j'arrive en Zambie, le premier journaliste qui m'interroge à l'hôtel, dans le hall, bien sûr, ils avaient appelé journaliste, ça aussi, c'est... l'Afrique. Et le gars me dit, mais on comprend pas trop, vous êtes nommé sélectionneur de la Zambie, mais vous êtes préparateur physique. Alors là, je suis obligé de retracer mon chemin d'entraîneur, même amateur en France, enfin national, voilà, et voilà comment je débute en Zambie, quoi. Voilà.
Et cette première expérience, qui ensuite va t'amener en Angola, à Alger, avant de revenir en Zambie pour gagner la CAN, cette première expérience, elle t'a apporté quoi pour la suite ?
Oh, elle est fabuleuse, je tombe dans un pays que je connaissais pas. Un pays dont on va poser la question à... Allez, j'aime bien les charriens pour les Français. Bon, la Zambie, c'est comment ? Ouais, je sais pas, ils doivent marcher pieds nus, il n'y a pas d'électricité. Non, c'est un pays fabuleux. C'est un pays avec des valeurs. C'est un pays qui est pacifique, qui n'a jamais été en guerre, alors que tous ses voisins l'ont été. Frontalier avec le Congo, le Zimbabwe... Le Malawi, voilà, c'est un pays magnifique, avec des gens pacifiques, gentils. J'ai toujours dit, je pense que j'ai un parcours un peu chaotique, mais j'ai quand même une bonne étoile quelque part, parce qu'on peut arriver dans des endroits qui sont bien pires que où je suis arrivé.
Et l'Angola, qui suit juste derrière, là tu parlais de pays anglophones, calmes. L'Angola, c'est pas tout à fait la même histoire.
Non, je fais 2 ans en Zambie, on fait quart de finale de la Coupe d'Afrique. Ça faisait 14-15 ans que la Zambie n'avait pas été en quart de finale. Et puis, il arrive le moment où je reçois une offre de l'Angola et bah, je me laisse un petit peu griser, peut-être par un peu l'inexpérience, et j'ai un salaire qui est bien mieux. Je pense qu'ils me disent qu'il faut qu'on reconstruise le football angolais après la guerre qu'il y a eu, tout ça. Bon, la présentation, elle est magnifique, sauf que j'arrive là-bas et pendant 4-5 mois, bah, c'est pas ce qu'on m'avait décrit. Et là, pareil qu'au Vietnam, je vais voir le président et je lui dis je vais partir, président. Il me dit comment ? Je lui dis non, j'ai pas de temps à perdre. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Et voilà, je suis parti au bout de 6 mois. Et j'ai pas trouvé de sélection. Et je suis parti dans un club en Algérie, à l'USMA d'Alger, dans une structure super, avec un club qui avait été racheté par Ali Haddad à l'époque. Et là, j'ai passé une année magnifique. Avant de mettre dans mon contrat une clause comme quoi à tout moment je pourrais repartir pour une équipe nationale, et c'est ce qui s'est passé pour retourner en Zambie après.
Et pourquoi tu retournes en Zambie à ce moment-là ? Parce que tu as des garanties.
Parce que je suis rappelé par Kalusha et je pense que l'histoire est pas terminée. Déjà, je pense que je devais pas en partir. Je pense qu'il faut être objectif avec soi-même et reconnaître ses erreurs. C'était pas bien d'en partir. Mais quelque part, est-ce qu'on aurait été champion d'Afrique si j'étais resté ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. La vie, on la refait pas. Hein. On peut pas la réécrire. Ça se passe comme ça. Il faut l'assumer, mais ça veut pas dire qu'il faut pas avoir un certain recul et se dire « j'ai certainement fait une erreur ». Et je retourne 3 mois avant, c'est-à-dire en octobre 2011. Et la Coupe d'Afrique, c'est en janvier 2012.
Et cette fois-ci, la séance de tir au but se passe bien ?
Ouais, l'objectif, c'est déjà parce que tous ceux qui, les mauvaises langues, là, disent c'est un miracle. Ouais, non, l'objectif, c'était d'aller en demi-finale, puisqu'on avait été éliminé au pénalty en quart de finale contre le Nigeria. Donc, bien sûr, on y va. Et comme je suis un gagneur, et l'objectif, avec tous les joueurs, on se dit, le staff, l'objectif, c'est d'aller en demi-finale. Alors, si on le dit, ça fait rire, ça fait sourire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a quand même des grosses sélections qui passe avant la Zambie, hein. Que ce soit, on va pas les citer, mais tous ceux qui connaissent le foot africain, quand on dit la Zambie dans le dernier carré, ça fait sourire beaucoup de monde. Et ben, on va au-delà de ses espérances.
Et alors, d'être Hervé Renard le soir de la finale de la Coupe d'Afrique, vainqueur avec la Zambie, que personne n'attendait, c'est comment cette soirée-là ?
Déjà, il y a l'avant. qu'on va retracer, c'est l'histoire du football zambien. C'est 1993, un crash à Libreville, au large de Libreville, avec toute l'équipe à son bord, un crash d'avion. Et la meilleure équipe de tous les temps de zambienne disparaît, excepté son président de fédération, Kalusha Boela, qui jouait au PSV Eindhoven. Donc la veille de la finale, on se rend sur la plage pour un mémorium, pour en silence, une marche. Je pense que ça nous donne de la force, quelque chose certainement. On reçoit un message spirituel certainement. La Zambie étant un pays très chrétien où vraiment là, ils pratiquent beaucoup, même les joueurs priaient, mais en chanson, tout ça. Donc c'était quelque chose qui était pour nous au quotidien. Et là, il se passe ça la veille, il se passe quelques petites choses, notamment on doit jouer en orange, mais comme c'est qu'on joue la finale contre la Côte d'Ivoire, on nous explique par A plus B que non, on va pas jouer en orange parce que, bon, c'est du blabla, parce qu'on était l'équipe qui recevait, donc on devait pouvoir garder nos couleurs, mais ça se passe autrement. Donc tous ces petits détails font qu'on a la motivation, en plus on se fout un peu de nous. Pour arriver, pour l'entrée des équipes, j'ai un commissaire qui vient me voir, il me dit « Coach, il faut faire enlever les vestes ». Vous savez, on avait mis des vestes par-dessus les maillots, comme ça se fait là, mais on les avait mis depuis le début et on voulait surtout pas les enlever. Et là, j'ai dit au commissaire « On les enlèvera pas ». Et les joueurs sont rentrés avec les vestes. Voilà, c'est toutes ces petites choses, c'est des anecdotes hein, qui ne sont pas très importantes, mais dont je me rappelle.
Tu es en train de parler de plein de choses, de superstitions. Il y a des choses, pas dans toutes les sélections africaines, mais on sait très bien qu'on est au-delà de la religion, du supporterisme. Il y a une dimension spirituelle qui est très, très importante dans ces moments-là. Est-ce que dans ton équipe de Zambie, toi, tu es seul, il y a des gens qui viennent, il y a des prêtres que demandent les joueurs, il y a des marabouts, tout ce qui peut exister dans le foot africain? Toi, tu as connu
ça? Non, en Zambie, pas marabout, mais oui, un prêtre qui est venu. Ouais. Et, par contre, c'est des prières, c'est exceptionnel. Hein. C'est en chanson, on ne s'endort pas. Hein. Même moi, je connaissais après certaines chansons, mais c'est des danses. Mais c'est des danses dans la joie, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, hein. C'est quelque chose. Mais eux le font depuis leur plus jeune âge. Et ça crée quelque chose dans l'équipe. J'ai notamment la vidéo du matin, parce qu'on avait, comme réveil musculaire, on faisait un peu au style les All Blacks. Là, c'était parti au début de la compétition. Puis bien sûr, après, on a gardé ça. Ça s'est plus arrêté, mais on n'allait pas changer le jour de la finale. Hein. Donc, on l'a fait le matin de la finale. Mais c'est comme ça. C'est l'Afrique et puis c'était la Zambie avec ses particularités, comme tu l'as dit. Dans d'autres pays, comme au Sénégal, ça va être les marabouts. Voilà, mais faut surtout pas aller contre ça. Après, on y croit, on n'y croit pas, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses convictions, chacun sa religion, mais il faut avoir le respect. Il faut respecter le désir des autres, respecter les croyances des autres. Voilà, c'est comme la vie, il faut de la tolérance. Et on en manque un petit peu, je pense, aujourd'hui. Donc, moi, j'ai appris tout ça au fur et à mesure de mes parcours en Afrique. C'est quelque chose d'exceptionnel dans ma vie d'homme. Là, on ne parle pas d'entraîneur. Là, je parle de ma vie d'être humain. Quoi. C'est quelque chose de fantastique.
Elle fait une grosse différence quand même, Hervé, cette journée-là de 2012 au Gabon. La victoire en Coupe d'Afrique tout d'un coup. J'imagine que tu es connu, alors tu es aussi connu que le président de la Zambie. Tu es connu en Afrique, mais tu es connu aussi en France. Comme un entraîneur français, ils ne sont pas 150 à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Comment ça se passe ce jour-là et les jours qui suivent pour toi? Tu te dis, ça y est, j'y suis?
Non, c'est... On ne dit pas, ça y est, j'y suis. J'ai toujours eu pour habitude de dire avec expérience, puisque j'ai eu la chance de vivre ces expériences, le plus beau jour, c'est le jour d'après. C'est la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et le jour d'après, quand il défile dans les rues à Paris, voilà, c'est ce jour. Et nous, quand on arrive à Lusaka, on atterrit, le tarmac est plein, encore plus plein qu'au Ghana quand les supporters nous arrivaient. Et entre l'aéroport et le centre-ville où on doit aller, il y a 17 km, c'est 17 km de vert et d'orange, des jeunes, des vieux, du monde partout. C'est quelque chose d'inimaginable. Et une phrase qui me restera toute ma vie, c'est « Les Zambiens m'ont toujours dit « You put us on the map ». Mmh. Vous nous avez mis sur la carte. » Voilà. Mais j'ai été surpris de cette réflexion et je l'ai entendue maintes et maintes fois. Nous, nous sommes mis sur la carte. Moi, j'ai été là, j'ai eu la chance d'être l'entraîneur de cette équipe. On a fait un travail remarquable avec le staff, avec le président, mais c'est la victoire de tout un peuple. Et c'est ce qui est beau dans les équipes nationales, c'est ce rapport avec le pays, défendre les couleurs. Moi, c'est ce que j'aime.
Tu l'as aujourd'hui, ça, ce sentiment avec l'Arabie Saoudite où...
Oui, c'est énorme ici. Oula, attention, hein, c'est... Il y a, comme dans tous les pays, il y a dans tous les pays, hein, il y a un sentiment de fierté. Hein. Parfois, quand une Coupe du Monde commence, si l'équipe de France n'a pas été très performante dans les qualifications, les gens ne s'y intéressent pas. Hein. Mais tu le sais mieux que moi, hein. Quand commencent à arriver les quarts de finale, là, il y a tout le monde qui est supporter de l'équipe de France. Hein. Et puis, quand c'est les demi-finales et la finale, alors là, tout le monde a toujours été supporter de l'équipe de France, bah, bien sûr. Hein. Mais par contre, en Afrique, c'est différent. Quand il y a un match international, la vie s'arrête. Tu l'as vécu, tu sais de quoi je parle. La vie s'arrête. C'est-à-dire que c'est du plus jeune au plus grand. Il y a 95%, si ce n'est pas plus, de gens qui s'intéressent au match. C'est comme ça, c'est le football.
Ça a été quoi ta plus belle causerie ?
Certainement celle avant la finale, contre la Côte d'Ivoire en 2012, je pense. Parce que,
la première avec la Zambie.
Oui, parce qu'il y a, en mémoire du crash, et juste pour les gens, j'ai peut-être été assez précis, l'avion s'écrase au large de Libreville, à 1 km de la plage. La finale se joue à Libreville.
Oui, on est au Gabon.
Contre la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est-à-dire, de 93 à 2012, la seule fois où la Zambie revient jouer, et là, c'est... Et nous, on fait la Coupe d'Afrique, qui était... Il y avait deux pays co-organisateurs, il y avait la Guinée équatoriale et le Gabon. Et le seul moyen qu'on puisse retourner au Gabon, c'est-à-dire à Libreville, c'est de jouer la finale. Si on ne joue pas la finale, on ne retourne jamais au Gabon.
Donc les planètes s'alignaient.
Voilà. Et on y est. Quand on y est, on ne peut pas. Alors, on a de la réussite. Didier Drogba rate un pénalty pendant le temps réglementaire. Oui, on a de la réussite, mais on la provoque. Et on l'a tout le temps provoqué. Et puis, on a cette conviction. Et quand arrive un pénalty, c'est Renford qui a la balle de match, il la rate. Et tout repart à zéro. Et puis, une seconde chance arrive avec Stopila Sunzu. Et là, quand il marque, on est soulevé de terre. C'est un moment, je dis toujours, je peux mourir. J'aurais vécu des choses que j'aurais jamais pensé vivre dans ma carrière. Et comme quoi, il n'y a peut-être pas d'hasard dans la vie. Quand je vais à l'interview après le match, Claude Leroy travaille pour Orange et il est présent dans le stade à Libreville pour faire l'interview après la victoire. Voilà, c'est...
C'était une belle journée.
C'est encore une soirée. Il y a Claude là. Il y a Claude à côté. C'est magnifique.
Comment tu enchaînes ensuite, toi, parce que ça va s'enchaîner assez rapidement, hein, entre cette première victoire en Coupe d'Afrique avec la Zambie en 2012. Et il y a l'expérience Sochaux. Tu arrives, c'est déjà, un club qui ne va pas bien.
Pardon. Ouais, je te coupe. Je continue l'aventure avec la Zambie.
Oui, jusqu'en 2013.
Pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais on termine deuxième de notre groupe derrière le Ghana qui se qualifie pour la Coupe du Monde 2014 et donc on est éliminé et c'est là où je décide de partir en fin 2013 pour rejoindre Sochaux qui va pas très bien, même très mal. Et moi, enfant, pour revenir en arrière, adolescent à Aix-les-Bains, rêvant d'être un joueur de première division professionnel, un footballeur professionnel, j'ai la chance de pouvoir entraîner dans mon pays, qui est la France, un club de première division, de Ligue 1. Et donc je dis oui parce que j'ai envie et je pense que personne ne peut m'arrêter. Mmh. Et j'y vais et je vis quelque chose de fantastique. Les gens me croient peut-être pas, mais je vis quelque chose d'aussi beau que les victoires en Coupe d'Afrique à Sochaux. Pour arriver au soir d'un dernier match de la 38e journée contre Ebian, où on perd ce match, où on a tous les ingrédients pour se sauver, et on ne réussit pas à le faire, mais on revient de tellement loin. Je me rappelle d'une causerie au mois de janvier, on est à 9 points d'Ebian. Et je prends ce match en référence, en me disant, il faut qu'on revienne, il faut qu'on gagne 7 points sur Ebian pour pouvoir les battre la dernière journée. Et ça se passe, c'est-à-dire que je suis face aux joueurs, et les joueurs s'en rappellent certainement. Je leur ai dit... Mmh. Sauf qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas et pourtant on est dans une dynamique exceptionnelle. On finit cinquième de la phase retour du championnat de France de Ligue 1.
Et après cette expérience de Sochaux, où effectivement tu fais une deuxième partie de saison de qualité mais qui ne suffit pas, pourquoi repartir en Afrique? Pourquoi repartir en Côte d'Ivoire? Bon, pour gagner ta deuxième CAN, oui, c'est sûr, mais pourquoi repartir à ce moment-là tout de suite?
Pourquoi moi, j'ai eu un club un petit... de ouais. Non, j'ai eu un club de Ligue 1 et on s'est pas entendu sur le salaire. Le président était d'accord pour me prendre, mais il m'a proposé un salaire qui m'a pas convenu et j'ai dit non, je peux pas. Donc j'ai peut-être essayé de gagner un peu de temps en pensant qu'il allait changer d'avis un petit peu, mais il a pas changé d'avis. Donc je suis pas allé. Et je me suis retrouvé libre. Et forcément, on est en 2014, c'est-à-dire simplement 2 ans et demi après la première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et, j'ai des sélections en Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire vient vous chercher, c'est t'as difficile pas réfléchi de très refuser. Longtemps. Hein. Non, c'est difficile. Et là, j'arrive dans une sélection qui est complètement différente de la Zambie. Hein. Là, j'arrive avec des joueurs qui sont des stars chez eux, au pays, mais qui sont des stars en Europe pour certains. Mmh. C'est-à-dire des stars de la Champions League. Mais c'est bien, ça me fait franchir un cap. J'arrive en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en août ou juillet 2014.
Et tu gagnes la CAN 2015 avec un scénario un peu identique, une CAN qu'attendait la Côte d'Ivoire depuis un petit bout de temps. En tout cas, cette génération-là.
Ouais, 23 ans. On bat la Côte d'Ivoire en finale en 2012. J'arrive dans un pays qu'on a battu et on réussit à gagner. Donc, voilà.
Elles t'apprennent quoi, toutes ces stars?
Comment les gérer? Et là, je me rappelle de beaucoup de choses dont j'ai parlé avec Claude. Et je me rappelle aussi de mon expérience en tant qu'adjoint avec Michael Essien. Quand je parle à Yaya Touré, j'ai comme si j'avais Michael Essien en face de moi. Mmh. Puisque Yaya Touré joue à Manchester City. J'ai Gervinho, Max Gradel et Boni qui joue lui aussi, qui joue à Swansea, qui est dans les meilleurs buteurs de la Première Ligue. Moi, fan d'Arsenal, fan d'Arsène Wenger, j'ai Kolo Touré qui a joué 8 saisons à Arsenal sous ma coupe. C'est beau, quoi. Mais on n'est pas supporter quand on est entraîneur. Hein. Là, il faut mener son équipe. Hein. J'apprends encore plus. Là, c'est la gestion des égos, là.
Des égos et puis de la situation aussi sur place en Côte d'Ivoire qui est plutôt compliquée à ce moment-là.
Oui, un peu compliqué. Et par contre, le football réunifie tout le monde. Quelque part, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour qu'il y ait enfin une victoire, pour qu'au moins, ça réunifie tout le monde à travers le football.
Tu vas arriver à Lille, une partie de saison où tu es démis de tes fonctions finalement assez rapidement. On te dit qu'il n'y a pas d'argent, on te dit qu'il n'y a pas de possibilité, alors qu'un peu plus tard... le projet va changer à Lille. Quel regard tu gardes sur cette expérience lilloise après la Côte d'Ivoire?
Bah, il y a les meilleurs souvenirs de sa carrière et puis il y a le pire souvenir de sa carrière. Mais ouais, quand je dis le pire sur le souvenir de sa carrière, c'est que je me suis abîmé mon image et abîmé à Lille, dans le football français. C'est ce qui m'embête le plus. Donc c'est mon ego qui est déchiré. Mais c'est difficile. C'est difficile.
Pourquoi elle a abîmé ton image ?
Bah parce qu'on fait 13 matchs et on est remercié. Et les esprits les plus réducteurs disent il ne s'est pas maintenu à Sochaux et il arrive à Lille, on ne l'a pas gardé au bout de 13 matchs. Alors moi, je rétorque oui, mais on m'a présenté un projet et ensuite le projet a changé. Et je me rappelle, j'ai proposé des joueurs, on ne les a pas pris. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui jouent en Champions League. Et qui. Voilà, et j'ai recruté Mike Maignan à Lille. C'était le quatrième gardien au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de France. Donc, j'avais Pavard qui avait 19 ans. Voilà, il fallait être patient. Il y avait Guirassy, mais Guirassy, il arrivait de Laval. Il avait 19, 20 ans. Voilà, il n'a pas été patient, mais le président, il gère son club. Il gère une situation. Peut-être qu'il ne m'aimait pas personnellement, chose que je pense. On n'a pas eu trop d'atomes crochus tous les deux. Voilà, c'est comme ça. J'ai certainement ma part de responsabilité aussi, mais c'est la chose la plus difficile de ma carrière.
Il y a des choses qu'au-delà des performances ou des difficultés que tu as pu rencontrer avec le projet, avec le président, avec tout l'environnement, des choses de ton fait à toi que tu regrettes dans cette période-là, de ta com ou de ce que
non,
tu aurais
pu... Non, il ne faut pas que j'aille à Lille. Non, ma com, je vais l'expliquer, ma com. Ma com, c'est facile de dire ça, mais quand on ne sait pas la réalité, on ne peut pas juger. Mais c'est normal, les journalistes font leur travail. Oh, Renard, il a dit, quand un journaliste, le soir de Bastia, de la 13e journée, on lui demande « Est-ce que vous avez la solution ?» Vous savez ce qu'il répond ? Il répond « Non, je n'ai pas de solution. » Mais vous savez ce que j'ai envie de dire derrière ? Je n'ai pas de solution avec ce qu'on m'a donné. Oui, mais je ne peux pas le dire. Et là, au bout d'un moment, je réfléchis quand même un petit peu. Et voilà, donc je suis énervé, je réponds ça, mais je ne vais pas au bout. Je ne vais pas au bout. Je ne vais pas au bout. Sauf qu'après, le projet, il change puisqu'on recrute 3 joueurs qui ne sont plus du tout dans la même caractéristique. Donc, quelque part, c'est un aveu. Voilà. Après, c'est Frédéric Antonetti qui arrive. Il a la chance qu'on lui recrute 3 joueurs. Il fait le travail qu'il sait faire partout où il est passé. Un excellent travail. Et il remonte la pente. Ils finissent européens. C'est super. Donc, le président a eu raison. Mais non, non, non. Dans le scénario réel, je suis désolé. Non, c'est trop simpliste de dire ça.
Dans le foot
là,
français.
Là, je me défends comme si j'étais devant un tribunal. Là.
Tout va bien, mais.
Non, tu mais c'est normal, de rien. Je me défends. Non, mais je suis accusé de ne pas avoir réussi. Oui, je suis accusé de ne pas avoir réussi. Et ça ne me quittera jamais.
Même si un jour, un projet, alors pour le coup que tu peux accepter, avec des bonnes relations, avec un entourage, un président en Ligue 1, revient sur ta table,
bah ça,
tu penses que ça peut arriver, ça ?
Ah, mais j'ai réussi de suite après, comment on peut expliquer
oui, bien
que
sûr.
De suite, et même avant, je gère des joueurs qui jouent dans des grands clubs de Champions League et on me dit « je ne suis pas capable de gérer Lille en première division ». Non, mais vous plaisantez quelque part ou quoi ? alors c'est une sélection, oui, non, mélangez pas tout, le travail c'est le même, sauf qu'il est différent au quotidien, mais quand on va sur le terrain, il faut mettre une tactique en place, il faut préparer une équipe, il faut parler aux joueurs, il faut faire preuve de psychologie, tout ça, donc ça n'a pas fonctionné à Lille, ok, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui, si on va... Regardez le championnat de la 13e journée, si on prend Reims, c'est Strasbourg, dans la situation où ils étaient, mais les clubs ont fait confiance à Thierry Loret et David Guion, et aujourd'hui, ils ont eu raison, parce qu'aujourd'hui, Reims, ils sont repartis sur la même dynamique. Et depuis que David Guion est à Reims, il fait un travail exceptionnel. Mais si jamais on le remercie à ce moment-là, bien sûr que la finalité, c'est pas la même. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Et tu penses que les planètes s'aligneront un jour pour toi en Ligue 1 ?
Ouais, je pense, ouais. Ça peut arriver maintenant, je ne sais pas si j'accepterai, mais ça va de nouveau se présenter un jour, ouais.
Parce que tu me parlais de ton prochain voyage qui serait encore plus loin que l'Arabie Saoudite, tu disais, en gros, je me suis arrêté à mi-chemin là, en Arabie Saoudite pour aller peut-être encore plus loin. c'est pas forcément la Ligue 1, ça, ce que tu m'évoquais il y a
Non, mais ça fait partie de mon travail, de mon rôle de sélectionneur, de mon métier de sélectionneur. C'est-à-dire que il y a deux choses. Quand on est entraîneur, je pense que le summum quand on est entraîneur, c'est la Champions League. Mmh. Quand on est sélectionneur, c'est la Coupe du Monde. Donc, c'est deux aspects différents de la profession, mais quelque part, c'est le même métier. Après, c'est une question de savoir réellement ce qu'on a envie de faire et par rapport au projet. Quand je suis contacté par Lille, pour moi, Lille, c'est le Lille de 2011-2012. On n'est qu'en 2015. Ouais. Hein. Mmh, Lille a été champion de France et vainqueur de la Coupe en 2011. C'est-à-dire que c'est que 4 ans après. Quand on arrive au centre d'entraînement de Lille, c'est exceptionnel. Hein. C'est un outil magnifique. Et moi, j'arrive là. Quelle fierté. Quelle fierté, moi, celui qui a démarré en National 3. Voilà, après l'histoire est comme elle est, mais donc lorsqu'on est contacté, je pense qu'il faut analyser vraiment pour se protéger, et je pense que je suis allé à Lille un peu trop tête baissée et que c'était pas le bon timing pour y aller.
Tu as connu 10 pays dans ta vie, est-ce que la France te manque? Est-ce que là, ce soir, il est 20h à Riyad, dans ton salon, j'imagine, en Arabie Saoudite, la France te manque?
Non, la France ne me manque pas. Mais mes amis en France me manquent, ouais. Ma maman me manque parce que j'ai toujours été loin d'elle depuis pas mal de temps et je pense qu'elle en souffre. C'est ce qui manque le plus quand on est éloigné. Et qui plus est dans cette période où il est un peu plus difficile de voyager, c'est moins facile. Mais sincèrement, vu la situation qu'il y a en Europe aujourd'hui, on est très bien ici. Hein. On est même très 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 bien.
Qu'est-ce que tu apprends l'arabe?
Chouïa.
Un chouïa. Bon, je te rappelle que ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle.
Je suis bavard.
Je ne t'ai toujours pas parlé de la chemise blanche et je ne le ferai pas. C'est beau ça quand même. Je l'ai évité.
Ouais, c'est bien.
Je savais que ça te toucherait.
Tu l'as quand même mentionné.
Non mais, tu portes quoi là? Parce que je te vois pas t'habiller comment.
Non, je suis en sport.
Eh ben voilà. Bon, écoute, je te remercie mille fois. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle suite d'aventures avec l'Arabie Saoudite. Et puis, je suis persuadé qu'on se recroisera très vite en France un jour. Et si tu as Claude Leroy au téléphone avant moi, tu le salueras pour moi.
Oui, c'est gentil. Et puis moi, je te suivrai quand je regarde les matchs de l'équipe de France.
Écoute, tu vois que la France te manque un peu.
Oui, ah non, mais moi je suis supporter de l'équipe de France. Hein. Le jour où, hier, j'ai regardé France-Irlande en rugby, hein. J'adore le rugby, mais je suis français, attention, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Et quand je vois l'équipe de France jouer comme elle joue en ce moment au rugby, félicitations à Fabien Galthié et son staff parce que c'est super.
Merci beaucoup Hervé, bonne soirée à toi.
Allez, merci, bonne soirée, au revoir.
Salut.
Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.